Bonjour à tous. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous lirons dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, et je lirai du verset 22 au verset 33. Donc je lirai dans la version Tob, dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, du verset 22 au verset 23. Qui nous dit ceci. Les hommes se dirigèrent de là vers Sodome. Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Il s'approcha et dit : Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable ? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment supprimer cette ville sans lui pardonner à cause de ces 50 justes qui s'y trouvent? Ce serait abominable que tu agisses ainsi. Faire mourir le juste avec le coupable? Il en serait du juste comme du coupable. Quelle abomination! Le juge de toute la terre n'appliquerait-il pas le droit? Le Seigneur dit, si je trouve à Sodome 50 justes au sein de la ville, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la cité. Abraham reprit et dit, je vais me décider à parler à mon Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être sur ces 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Il dit, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. Abraham reprit encore la parole et lui dit, peut-être là s'en trouvera-t-il 40. Il dit, je ne le ferai pas à cause de ces 40. Il reprit, que mon Seigneur ne s'irrite pas si je parle. Peut-être là s'en trouvera-t-il 30. Il dit, je ne le ferai pas si j'y trouve ces 30. Il reprit, je vais me décider à parler à mon Seigneur. Peut-être là s'en trouvera-t-il 20. Il dit, je ne détruirai pas à cause de ces 20. Il reprit, que mon Seigneur ne s'irrite pas si je parle une dernière fois. Peut-être là s'en trouvera-t-il 10. Je ne détruirai pas à cause de ces 10. Le Seigneur partit lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Ce matin, c'est de ces justes que j'aimerais vous parler, de ces hommes et de ces femmes qui, de par leur foi, accèdent à la justice de Dieu qui leur accorde la vie. Des hommes et des femmes qui, comme Abraham, ont un grand respect envers Dieu. Ce respect qui leur permet parfois d'oser réclamer l'impensable. Le prophète Habacuc nous parle d'eux. Ils sont au centre de toute sa prophétie. Quand il nous dit dans Habacuc au chapitre 2, au verset 4, « Le méchant est plein d'orgueil, il ignore la droiture, mais le juste vivra par la foi. » Je souhaite organiser la prédication de ce matin autour de ces quelques mots. Le juste vivra par sa foi. Et je vous propose donc d'aborder la justice de Dieu, la vie de Dieu et enfin la foi de l'homme. Et je commencerai par la justice de Dieu. Le mot « juste » dans l'Ancien Testament est traduit en français à partir du mot « tzadek ». Ce mot est le synonyme du mot « innocent ». Il est souvent employé avec une connotation légale. Et dans ce verset, il est associé à la foi. Il est donc possible d'en conclure que la justice de Dieu impacte sur la spiritualité de ses créatures. La racine de ce mot se dit tzadak et signifie être purifié. Il nous éclaire sur la relation étroite qu'il existe entre la justice de Dieu et la foi de l'homme. La justice de Dieu a pour but de purifier l'homme, de le rendre innocent, juste aux yeux de Dieu. Oui, mais purifier de quoi ? Pourquoi le rendre innocent ? Être juste, dans quel but ? Alors, je ne reviendrai pas sur ces nombreux passages de la Bible qui nous enseignent la souillure du péché. Je rappellerai seulement cette vérité. Tout comme la cigarette, le péché tue. C'est à cause de leur péché que Sodome s'est attiré sur lui la condamnation de Dieu. C'est à cause de leur désobéissance. Si cette cité s'était détournée du mal, si elle ne s'était pas rendue abominable aux yeux de Dieu, sans doute qu'elle n'aurait pas été jugée aussi sévèrement. Elle n'en aurait pas eu besoin. Dans l'absence de péché, nul besoin de faire justice. L'application de la justice trouve son intérêt quand le péché est commis. Mais si un homme ou une femme s'efforce chaque jour à être droit devant Dieu, nul besoin de corriger cette personne. La justice qui purifie a pour objectif l'obéissance à la loi. Alors, pour préparer cette prédication, j'ai appelé ma maman pour lui demander un épisode de ma vie où j'ai eu besoin d'être corrigé. Et voici l'anecdote. J'étais en prière, en primaire à ce moment-là. En primaire. Et ce qui m'effrayait plus, mais plus, beaucoup plus que le proviseur, c'était les tables de multiplication. Alors, maman, étant institutrice, me donnait de temps en temps des exercices à faire car je n'étais pas très fort en maths. Jusqu'au jour où, tiens, j'ai rendu ma feuille sans aucune erreur. Et puis le lendemain, pareil. Aucune erreur. Et puis le surlendemain aussi. Elle a flairé l'embrouille quand elle s'est rendue compte que je faisais plein d'erreurs à l'oral, mais rien à l'écrit. Et d'autant plus, quand je revenais, d'avoir travaillé sagement dans ma chambre, seule. Elle s'est vite rendue compte que je trichais. J'avais dissimulé les réponses aux tables de multiplication et j'allais y jeter un coup d'œil quand l'exercice était trop difficile ou que j'avais la flemme de réfléchir. Vous vous en doutez sûrement, je me suis fait remonter les bretelles. Il n'est jamais plaisant de corriger son enfant et parfois d'avoir recours à la punition. Mais c'est un acte juste de l'encourager par la punition à ce qu'il soit obéissant. Cette obéissance que j'ai apprise par la punition m'a évité de subir à nouveau la justice de mes parents, du moins en ce qui concerne l'étape de multiplication. Nous rencontrons parfois des non-chrétiens qui réclament eux aussi une justice. Si Dieu existe, pourquoi le mal ? Pourquoi les meurtres, les viols et les agressions ? Où se trouve la justice de Dieu dans tout cela ? Toutefois, ces mêmes personnes s'attirent sur elles la condamnation de Dieu par leurs actes d'injustice. Un meurtrier qui réclame justice sera mené à la potence. L'homme ou la femme qui commet le mal s'attire sur lui une condamnation à mort quand il réclame que justice soit faite. Dieu a du respect pour tout acte qui correspond à sa justice. Mais l'injustice le met en colère. C'est cette colère qui a détruit Sodome. Cette colère qui a fait justice envers cette cité. Et Dieu, par colère, n'agit jamais au hasard, comme ça peut nous arriver. Dieu corrige l'homme au cas par cas. C'est pour cela qu'il n'a pas contredit Abraham. Il était d'accord avec lui. Dieu n'applique pas sa justice pour faire des exemples en punissant le juste. Mais il applique sa justice envers ceux qui le méritent et en ont besoin pour marcher dans l'obéissance. Nous avons, nous aussi, besoin de cette justice pour être corrigés. Et l'Esprit de Dieu cherche chaque jour à nous éduquer, à nous rendre justes, car sans justification, je m'attire la colère de Dieu. Nous lisons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, le verset 16 et 17, Paul qui nous enseigne ceci. « Car je suis fier de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, puis les non-Juifs. En effet, cet Évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi, et rien que par la foi. Comme il est dit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Paul veut prouver que le but de Dieu a toujours été de rendre le pécheur juste par sa foi. Cette justice dans nos vies nous permet de reprendre une position normale d'un enfant devant son père, avec pour conséquence de produire et de multiplier les bonnes œuvres. C'est en Jésus, et en Jésus seul, que le pécheur peut trouver une justice digne de Dieu. Mais tout n'est pas encore fini. Car l'aboutissement de la justice se fera dans le retour du Christ. Ce n'est qu'à ce moment que nous pourrons jouir pleinement de la justice de Dieu qui donne la vie. Et j'en viens à la vie de Dieu. Le verbe « vivre » nous vient de l'hébreu « kaya ». Celui-ci exprime une action non accomplie, inachevée, ce qui en soi correspond à notre verset puisque nous lisons en quelque sorte une condition. Si tu as la foi, alors tu vivras. Si la condition n'est pas remplie, si tu n'as pas la foi, alors l'action de vie n'est pas accomplie. Le mot en hébreu a une connotation de guérison. La vie que Dieu offre est une vie qui guérit, qui rétablit. Car la question à se poser est, qu'est-ce que la vie sans Dieu, sinon une caricature de la vie, de la véritable vie? Tout mal, tout péché va à l'encontre de la vie, l'abîme, la corrompt. Ce n'est que dans l'obéissance et la justice de Dieu que je peux vivre comme Dieu le voulait à l'origine. Une vie où la créature est en communion parfaite avec son Créateur. Le Créateur devient par communion une véritable source de vie pour la créature, qui ne vit plus pour elle-même, mais pour celui qui l'a créée. Il est évident qu'Habacuc vise les infidèles de son époque par ce verset, et tout particulièrement ceux du peuple d'Israël. Cette période de l'histoire dans laquelle Habacuc prononce cette prophétie est dramatique, car nous nous trouvons à quelques années à peine de la déportation du peuple juif par les Chaldéens à Babylone. À travers cette prophétie, Habacuc ne fait pas seulement que prévenir ceux ou celles qui se sont détournés de Dieu, mais il cherche à redonner du courage et de l'espoir à tous les hommes et toutes les femmes qui auront persévéré dans la foi après avoir tout perdu, leur maison, leur terre, leur bétail, et parfois même leur famille. D'un côté, nous avons le méchant, qui s'enfle d'orgueil et manque de droiture, tel que le Chaldéen, qui finira par périr de son incrédulité. Et de l'autre, nous avons toute personne justifiée par la foi, qui possède une vie qui ne saurait lui être enlevée par l'épée. Plein de menaces, ce verset est pour le peuple de Dieu rempli de promesses. Cette vie de foi que je choisis de mener a un impact sur tout ce qui m'environne, car j'agis avec justice. S'il y avait eu ne serait-ce que 10 justes à Sodome, Sodome n'aurait pas été détruite, telle que l'Éternel l'avait promis à Abraham. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, versets 38 et 39, l'auteur qui nous dit ceci. « Celui qui est juste vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux cherche, tout comme Habacuc quelques 600 ans plus tôt, à encourager son auditoire en leur enseignant que c'est la confiance en Dieu qui donne la résistance dans l'épreuve. C'est cette confiance qui donne la force de tenir bon pour la vie. Aujourd'hui, c'est le sentiment de notre étouffement spirituel pour le Seigneur qui peut nous conduire au découragement lorsque vient l'épreuve. Ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras, mais regardons à ce qui est promis pour vivre dans la confiance de ce que le Seigneur nous donnera jour après jour jusqu'à son retour proche. Effectivement, les Chaldéens ont attaqué la Judée et massacré ses habitants. Mais qui fut sauvé ? Non pas l'orgueilleux qui se confie en ses propres forces, mais le juste qui vivra par sa foi. Aujourd'hui, c'est dans la foi en Jésus et en Jésus seul qu'est la vie. La foi de l'homme. Le mot foi est traduit de l'hébreu emhona, souvent traduit en français par fidélité. La foi est un acte de fidélité. Alors, je suis allé voir dans le dictionnaire et c'est dans Wikipédia que j'ai trouvé une définition intéressante concernant la fidélité entre deux personnes. La fidélité est définie comme étant un acte qui considère l'autre comme un partenaire privilégié de sa vie privée. Oui, c'est ce que réclame notre Créateur. Être considéré par ses créatures comme un partenaire privilégié de notre vie privée. La foi n'est pas un acte ponctuel, mais un mode de vie. L'homme ou la femme qui choisit d'avoir la foi trouve sa vie changée, transformée, car la foi qui, dès à présent, dirige sa vie, l'encourage à agir différemment. Nombreux d'entre nous avons vécu cette expérience de foi. Nous avons, nous aussi, vu notre vie changer, car nous avons choisi d'agir dans la justice de Dieu. Le croyant justifié par la foi persévère chaque jour pour plus de justice. Il cherche à être fidèle dans ses actes, dans ses paroles et dans ses pensées. Et je mets le doigt tout particulièrement sur les pensées d'un chrétien, car c'est bien souvent le premier péché avant de passer à l'acte. La jalousie de ce que l'on ne possède pas. La colère ou la haine injustifiée, l'avarice, sont souvent des péchés qui ne se voient pas ou peu au premier abord. Pourtant, ce sont bien des péchés qui vont à l'encontre de ce en quoi nous croyons. Sans la foi, nous ne sommes pas rendus justes aux yeux de Dieu, puisque sans la foi, nous ne bénéficions pas de sa justice qui donne la vie. Nombreux sont ceux qui mériteraient le prix Nobel de la paix, ont donné de leur personne pour la vie, pour la justice, malheureusement, malgré tout le bien qu'ils ont fait autour d'eux. Peu sont sauvés. L'obéissance à Dieu passe avant tout par la foi, cet acte de fidélité qui lui donne accès à notre vie privée. C'est la foi qui donne la vie, car par notre foi, nous nous sommes rendus obéissants. Je le répète, sans la foi, la vie n'est qu'une caricature, c'est une illusion. Car la vie sans la foi en celui qui est à l'origine de tout, ce n'est pas la vie, c'est autre chose. Et la religion, ce n'est pas la foi. La religion est un ensemble de traditions, de rituels, d'habitudes automatiques et souvent de superstitions, qui a tendance à nous éloigner de Dieu plus qu'à nous en approcher. Quand je me mets à lire la Bible sans chercher à l'appliquer dans ma vie, à prier fort pour faire bien, à m'engager dans l'église pour paraître quelqu'un de pieux, à coller un poisson sur ma voiture afin d'être protégé. Je suis là plus dans la religion que dans la foi. Tout est une question de foi, car lire la Bible, prier, s'engager dans l'église, ou même coller un poisson sur la voiture n'a aucune importance si je n'ai pas la foi. La foi, c'est une relation vivante avec Dieu par l'intermédiaire de son Fils. La Bible, la prière, l'engagement dans l'Église sont des outils pour rendre notre foi vivante. Mais sans la foi, toutes ces choses sont vaines. Plus je me rapprocherai de Dieu par la foi, plus j'aurai le désir d'être juste dans mes actes. Toutefois, il faut avouer une chose. Avoir la foi ne nous empêche ni de subir le mal, ni malheureusement de le commettre. Il faut être conscient que le mal entraîne toujours plus de mal. Et le mal nous éloigne de Dieu. Le méchant se réjouit de ses succès, tandis que le croyant vit aux dépens de son Créateur. Nous lisons dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3, le verset 10 et 11, l'apôtre Paul qui nous enseigne ceci. En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction. Car il est écrit, « Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare « Le juste vivra par la foi ». L'apôtre Paul nous explique ici que c'est par la foi seule que l'homme peut être justifié. Calvin proposait l'idée de marcher de foi en foi, dans le sens où la foi amène à toujours plus de foi. Alors, sur ces mots, j'en viendrai à ma conclusion. Habacuc nous dit « Le méchant est plein d'orgueil. Il ignore la droiture, mais le juste vivra par sa foi. » Cette prophétie trouve toute sa logique dans le sacrifice de Jésus. Car c'est dans la foi en Jésus que je bénéficie de la justice de son sacrifice, afin d'être épargné de la mort, et donc de vivre une vie pleine de grâce. Effectivement, le péché tue, mais bien heureusement, la foi sauve. Les sodomites n'ont pas compris ou n'ont pas voulu comprendre cela. Résultat, ils ont subi un juste châtiment pour leur faute commise. C'est à cause d'eux que je nous encourage ce matin à vivre par la foi chaque jour que Dieu fait. Amen.